Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Faire reculer la précarité, ce jeudi avait lieu la journée mondiale du refus de la misère. De nombreuses associations défilaient pour sensibiliser sur cette question. Nous avons donné la parole à ATD Quart-Monde. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, reçu au Vatican. Il a à son tour invité le pape à se rendre en Terre Sainte prochainement. Dans ce magazine, nous parlerons aussi de la conférence épiscopale allemande qui fait front face aux dépenses somptueuses d'un évêque. Et puis ce vendredi, le Conseil constitutionnel français doit se prononcer sur l'objection de conscience invoquée par certains élus face au mariage pour tous. Un dossier crucial, nous entendrons le délégué général de l'Alliance Vita. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Ce jeudi avait lieu la 27e journée mondiale du refus de la misère, une journée voulue par le père Joseph Wresinski, le fondateur du mouvement international ATD Quart-Monde. ATD Quart-Monde, dont une délégation présente ce mercredi à l'audience générale, place Saint-Pierre, avait été saluée par le pape François. Une journée qui a reçu le soutien de l'ONU en 1992. De très nombreux événements étaient organisés en France et à travers le monde, notamment à l'initiative de nombreuses ONG luttant contre la pauvreté, les inégalités. ATD Quart-Monde, bien sûr, mais aussi le Secours catholique, les Apprentis d'Auteuil ou le Secours populaire, pour n'en citer que quelques-uns. Une marche contre les préjugés avait lieu ce jeudi après-midi des Invalides au Trocadéro avant un rassemblement citoyen sur le parvis des droits de l'homme à Paris. Le mot d'ordre de cette journée est la lutte contre la discrimination qui vise les personnes en situation de pauvreté ou de précarité sociale. ATD Quart-Monde propose d'ailleurs que la discrimination pour pauvreté soit inscrite dans le code pénal. Bruno Tardieu est délégué national d'ATD Quart-Monde. Selon lui, ces préjugés qui ont toujours existé se durcissent depuis quelques années.
Le regard se durcit sur les personnes en situation de pauvreté. Les caricatures se font de plus en plus fortes et on prend souvent les plus vulnérables un peu comme des boucs émissaires. Tout le monde est un peu inquiet des crises de la finance et on se dit que ça doit être de la faute de quelqu'un. Et donc il y a énormément d'idées fausses qui circulent, qui ont toujours existé mais qui se sont durcies. Et aussi, je pense qu'avec le droit des personnes défavorisées qui a avancé depuis 50 ans, eh bien les personnes défavorisées ont osé dire qu'ils étaient traités différemment et que parfois il fallait absolument qu'ils osent parler, dire, l'effet que ça fait quand on est traité de casse sociale ou quand on est traité de poids pour la société. Toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui on se sent mûr, on se sent prêt à ce qu'on pose la question à tout un chacun. Êtes-vous prêt à changer votre idée, vos stéréotypes sur les personnes défavorisées pour leur donner quand même une chance ?
Sur quelles questions évoluent les combats d'ATD Quart-Monde ? Vous avez parlé des stéréotypes qui se durcissent. Sur quelles questions on va mettre l'accent plus aujourd'hui ?
Pour la France, on a vraiment une demande politique précise. C'est que la discrimination pour précarité sociale soit inscrite dans le code pénal. Pour que ce durcissement du langage, ces traitements différents, puissent vraiment clairement à se situer face à une norme républicaine. C'est sûr que la discrimination ethnique, par exemple, qui est dans le code pénal, n'empêche pas le racisme. Mais au moins, tout le monde sait que c'est mal. Tout le monde sait que ça se fait pas. Même des gamins de 6 ans, si l'un dit à l'autre « sale arabe », il y a un troisième qui dira « mais t'es un raciste, toi ». Donc il y a une norme qui fait qu'on sait que c'est destructeur, le racisme. Eh bien, cette espèce de traitement méprisant vis-à-vis des très pauvres ou de traitement négatif vis-à-vis des très pauvres, il faut aussi que ça cesse. Si on caricature les personnes pauvres, c'est aussi parce que ça nous fait peur, tout ça. Et donc, comme on a un peu peur, vous savez le proverbe, si tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Pour éloigner la question de la pauvreté, on va la caricaturer. Tout le monde croit que les pauvres demandent des sous. En fait, ce qu'ils demandent, c'est à travailler, pouvoir participer, contribuer à la création, contribuer à la société et pas du tout être comme ça, caricaturé comme des assistés.
Pour éviter la caricature sur la pauvreté, une solution clé, c'est véritablement la rencontre.
La seule solution vraiment, c'est la rencontre. C'est pour ça que ces rassemblements qui ont lieu sont précieux. Il y aura une marche à Paris. Et pendant 2 heures, marcher ensemble entre des gens qui vivent l'exclusion, qui sont jamais à l'honneur, qui sont toujours un peu à raser les murs, et puis des citoyens plus inclus, comme vous et moi, et ben 2 heures de marcher au coude à coude, ça peut changer radicalement le regard. se rencontrer, mais pas dans une relation de bienfaiteur à bénéficiaire, mais dans une relation de citoyen à égalité. Et rien que cela change quelque chose pour les gens défavorisés. Et je le dis aussi, change quelque chose pour les autres, parce que moi, je sais que c'est ce mouvement qui m'a permis de changer ma propre perception de qui étaient les gens dans la pauvreté.
Justement, face à ce problème de la pauvreté, la réponse politique a tenté plusieurs choses depuis de nombreuses années. Quels sont les domaines où le droit français aujourd'hui est le plus inadapté ?
Le droit avance. Quand on regarde sur le long terme, la manière d'aborder la pauvreté en termes de droit pour tous, c'est la bonne manière. C'est une manière lente, mais c'est la bonne manière. Alors bien sûr qu'il y a encore énormément de domaines dans lesquels le droit n'est pas effectif. Je pense par exemple que l'accès à la justice est encore très très fragile. Alors pas parce que le droit manque, mais parce que la pratique manque. Parce que la France est très très forte pour ses textes, mais parfois c'est la pratique qui ne suit pas. Il y a énormément d'avocats ou de juges qui aimeraient être vraiment proches des personnes en situation de pauvreté, mais qui sont tellement loin dans leur vie quotidienne qu'ils ne se comprennent pas. La perception de la justice par ceux qui vivent l'injustice et la perception de la justice par ceux qui sont censés l'appliquer sont parfois à des années-lumière. Je vais vous donner un exemple concret de ça. Si vous faites le droit au logement opposable et que les maires n'en veulent pas et que les citoyens bien logés n'en veulent pas dans leur commune, ben le droit bute sur la question de la co-responsabilité. Si vous faites la CMU et que 25% des médecins dans certaines grandes agglomérations n'en veulent pas, eh bien le droit bute sur la question de la responsabilité citoyenne. Donc ça veut dire que ce n'est pas qu'une question de droit, c'est aussi une question de formation des praticiens, de manière de vivre le droit et de manière d'être responsable.
C'était Bruno Tardieu, délégué national d'ATD Quart-Monde, interrogé par Jean-Baptiste Cocagne. Et la lutte contre la pauvreté est aussi au cœur de l'Assemblée nationale de la Caritas brésilienne. Réunie jusqu'à dimanche, cette rencontre sera centrée sur la lutte contre la faim dans le pays, mais aussi dans le monde. Il n'y avait parmi eux aucun indigent, une parole tirée des Actes des Apôtres, tel est le thème de cette assemblée. Créée en 1956, la Caritas brésilienne dépend de la Conférence épiscopale. Le Brésil est l'un des pays présentant les inégalités entre les revenus les plus importantes dans le monde. Les principaux programmes d'action de la Caritas locale sont la lutte contre la pauvreté urbaine, le développement de l'économie solidaire ou encore la scolarisation des enfants. Mahmoud Abbas au Saint-Siège, le président de l'autorité palestinienne, était reçu ce jeudi matin par le pape. François et le chef de l'État palestinien se sont entretenus pendant une trentaine de minutes. Ils ont notamment abordé la situation au Moyen-Orient, en particulier le processus de négociation entre Israéliens et Palestiniens, souhaitant que soit dégagée une solution juste et durable d'un conflit dont la fin se révèle toujours plus nécessaire et urgente. À ce titre, le pape et son interlocuteur ont souhaité que soient prises des décisions courageuses en faveur de la paix avec le soutien de la communauté internationale. Le pape et Mahmoud Abbas qui ont évoqué également la guerre en Syrie et souhaité que la logique de la violence fasse place à celle du dialogue et de la réconciliation. Et comme le président israélien Shimon Peres au mois d'avril dernier, le président palestinien à son tour a invité le pape François à se rendre en Terre Sainte. C'est ce qu'il a affirmé à Mgr Dominique Mamberti, le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, au terme de sa rencontre avec le Saint-Père. Mercredi prochain, 23 octobre, c'est le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui sera reçu par le pape François. Pour plus de détails, je vous renvoie à notre site internet www.radiovaticana.va. Si un chrétien devient disciple de l'idéologie, il a perdu la foi. Telle est la mise en garde du pape ce jeudi matin contre le danger d'une attitude du chrétien avec clé en poche et porte fermée. Une mise en garde formulée lors de son homélie prononcée dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Jean-Baptiste Cocagne.
Le pape est parti de l'évangile du jour, de Saint-Luc, où Jésus fait des reproches aux docteurs de la loi. « Malheureux êtes-vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. » Vous-même n'êtes pas entré et ceux qui essayaient d'entrer, vous les en avez empêchés. Le pape a actualisé cette mise en garde. Quand nous sortons dans la rue et que nous nous trouvons devant une église fermée, on nous donne des explications qui ne sont que des prétextes, déclarait-il. Mais la réalité reste que l'église est fermée et que les gens qui passent devant ne peuvent entrer. Pire encore, a poursuivi le pape, le Seigneur qui est à l'intérieur ne peut sortir. Aujourd'hui, Jésus nous parle de cette image de la fermeture, l'image de ces chrétiens qui ont en main la clé, mais l'emportent et n'ouvrent pas la porte. La foi passe, pour ainsi dire, par un alambic et devient idéologie, a poursuivi le pape, toujours friand des images. Et dans les idéologies, Jésus n'a pas sa place. La foi devient idéologie et l'idéologie fait peur, éloigne les gens, éloigne l'Église des gens. C'est une maladie grave que celle des chrétiens pris par l'idéologie, a continué le pape. Mais ce n'est pas nouveau, car déjà l'apôtre Jean, dans sa première épître, parle de cela. Les chrétiens qui perdent la foi et préfèrent les idéologies deviennent rigides, moralistes, mais sans bonté. Le pape François devait alors rendre l'absence de prière responsable de cette dérive, que le chrétien en question soit un simple fidèle ou un prêtre, un évêque, même un pape. « S'il n'y a pas la prière, tu fermes toujours la porte », a-t-il dit. Le pape a insisté sur des vraies prières qui ne sont pas des récitations comme celles des docteurs de la loi, mais bien un dialogue véritable avec Jésus.
Le pape qui recevait également ce jeudi en audience le président de la conférence épiscopale allemande, Mgr Robert Zollitsch. La situation du diocèse de Limbourg a été l'un des sujets évoqués lors de cet entretien avec le pape au Vatican. Il était prévu depuis plusieurs semaines afin de faire un bilan de l'assemblée plénière des évêques allemands qui s'est achevée il y a peu à Fulda. Quelques heures après son audience avec François, l'archevêque allemand a tenu une brève conférence de presse à Rome, non pas pour répondre aux questions des journalistes, mais pour rendre publique une déclaration. Marie Duhamel.
Le pape m'a soutenu et encouragé. Le président de la conférence épiscopale allemande espère, et sans le formuler ouvertement, invite toutes les parties à œuvrer pour une solution rapide et opportune afin de ramener le diocèse de Limbourg à la tranquillité. À l'issue de cette audience avec le pape, Mgr Zollitsch a confirmé que débuteraient dès ce vendredi les travaux de la commission qu'il a mandatée personnellement pour mener l'enquête sur la situation du diocèse. Après l'explosion du scandale provoqué par les dépenses faramineuses de l'évêque de Limbourg pour construire la nouvelle résidence diocèse, on parle de plus de 31 millions d'euros. Cette commission a trois objectifs. Faire toute la lumière sur les dépenses exactes qui ont été engendrées, sur le mode de financement des travaux et enfin sur la prise de décision d'intervention. Cela prendra le temps qu'il faudra. Mgr Zollitsch, s'il se félicite ce jeudi de voir l'enquête démarrer, dit ne pas être en mesure pour le moment de faire des prévisions fondées sur la durée de l'enquête. Dans sa déclaration publique, il ne revient pas non plus sur les conséquences de cette affaire pour l'Église dans son ensemble. En Allemagne, l'évêque de Limbourg a été surnommé l'évêque du luxe. De nombreux catholiques ont manifesté pour demander sa démission et la presse affirme que des dizaines de catholiques allemands ont maintenant quitté l'Église après ce scandale. Lundi, dans le journal Bild, le président de la conférence épiscopale allemande affirmait que l'Église avait maintenant un énorme problème de crédibilité.
Sachez que le pape a décidé que les exercices spirituels de la Curie se tiendraient cette année à la Casa del Divin Maestro à Albano, dans les environs de Rome, et non pas comme c'est la tradition dans la chapelle Redemptoris Mater du palais apostolique au Vatican. C'est un prêtre du diocèse de Rome qui prêchera la retraite, Mgr De Donadis. Le pape se déplacera pour cela avec tous les responsables des dicastères dans la petite ville d'Albano du 9 au 14 mars prochain. Pour les jésuites, par tradition, les exercices spirituels se déroulent dans un lieu différent du lieu de vie habituel, a expliqué le vice-directeur de la salle de presse du Saint-Siège. Et le pape, étant jésuite, a décidé de faire de la sorte, a-t-il commenté. L'Église de Scientologie définitivement condamnée en France. La Cour de cassation a rejeté ce mercredi le pourvoi par la secte contre sa condamnation en appel pour escroquerie en bande organisée. C'est la fin d'un long feuilleton très médiatisé en France. Plusieurs scientologues avaient été condamnés au mois de janvier dernier pour avoir profité de la vulnérabilité d'anciens adeptes pour leur soutirer de fortes sommes d'argent. En cas de nouvelle condamnation, selon la loi, l'Église de Scientologie s'expose à une dissolution pure et simple. Mais les scientologues ne s'avouent pas battus, ils ont annoncé leur intention de déposer un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Et restons en France pour terminer ce magazine, la France où l'objection de conscience fait débat. Mariage pour tous et objection de conscience, c'est sur cette question prioritaire de constitutionnalité que les sages du Conseil constitutionnel devront se prononcer ce vendredi 18 octobre. La loi ouvrant le mariage civil aux couples homosexuels, adoptée en avril dernier par les députés et sénateurs français, ne prévoit en effet aucune clause d'objection de conscience pour les maires. Or, l'absence de cette clause serait, selon certains élus, contraire à la Constitution, contraire même aux libertés fondamentales proclamées par la Déclaration de 1789, selon laquelle nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. D'où le recours déposé le 2 juillet dernier par le collectif des Mères pour l'Enfance, qui rassemble des édiles opposés au mariage et à l'adoption par des couples homosexuels contre la fameuse circulaire Valls du 13 juin, laquelle rappelait aux maires récalcitrants les risques encourus s'ils refusaient de célébrer un mariage homosexuel. La conscience prime-t-elle sur la loi? C'est l'avis de Tuc Duhal-Derville, délégué général d'Alliance Vita et porte-parole du collectif La Manif pour tous.
Oui, la conscience personnelle devrait primer sur la loi, d'autant plus que les maires ne sont pas des fonctionnaires, entre guillemets, comme les autres. Ils sont élus au suffrage universel sur un programme, sur une profession de foi et des convictions. Et le président de la République ne s'y est pas trompé. François Hollande, le 20 novembre 2012, avait bien indiqué aux maires que la loi s'appliquerait à tous dans le respect, néanmoins, de leur liberté de conscience. Et il avait dû peut-être se dédire le surlendemain en étant sous la pression du lobby LGBT, mais on voit bien que c'est un sujet très délicat et que si on force les élus du peuple à abdiquer leur conscience dans ce genre de circonstances, eh bien alors il faudrait le faire aussi pour toutes les autres professions, je ne sais pas, pour les journalistes qui ont aussi cette liberté de conscience par exemple, et pas seulement les professions médicales. Et il faut voir que les maires sont aussi dans une situation extrêmement inconfortable, hein. Ils sont menacés de prison ferme, de 75 000 euros d'amende. Le maire d'Archange, qui a subi des pressions considérables du préfet, a été menacé d'une astreinte de 1 000 euros par jour, etc. Donc il y a une pression considérable qui, à un moment donné, je crois, provoque un réveil des consciences, parce qu'on ne peut pas se laisser enfermer dans un refus de la liberté de penser et la liberté de conscience sur des éléments aussi intimes, aussi profonds que ceux qui nous ont mobilisés pendant une année.
Que répondez-vous aux partisans de la loi qui affirment qu'instaurer une clause de conscience pour les maires risquerait de porter atteinte à l'égalité des citoyens, principe fondamental de la République, et de voir le risque de créer deux catégories de mariage?
Alors c'est vrai que pour nous qui étions et demeurons opposés au mariage entre personnes de même sexe, ce mot mariage désormais a des guillemets puisque on a changé le sens même du mot. Le mariage, c'est normalement marier des personnes qui sont différentes, qui sont de sexe complémentaire, et c'est ça tout le sens en France, en particulier avec la filiation qui est attachée au mariage, le droit d'adopter, la possibilité d'adopter des enfants. Donc effectivement, le mot a été complètement changé, mais ça n'a pas rendu pour autant équivalent des personnes de sexe complémentaire avec des personnes de même sexe, notamment dans le domaine de la capacité de procréation, parce que ça dépend pas du droit, ça dépend de l'essence même de l'humanité, dont Lionel Jospin a dit lui-même qu'elle était faite non pas d'homosexuels et d'hétérosexuels, mais d'hommes et de femmes. Et c'est vrai que de ce fait, la question de l'égalité est complètement biaisée. Alors plus précisément sur le plan juridique, on le sait bien, si un maire refuse ce type de mariage, parce que c'est contraire à sa conscience profonde, à la loi inscrite au plus profond de sa conscience, à ce moment-là, il y a la possibilité de le déléguer à un adjoint ou de demander au préfet de trouver un autre maire. Et de ce point de vue, il n'y a pas d'empêchement de célébrer ces mariages qui, pour autant, ont changé considérablement le sens du mot mariage dans notre pays.
Vous affichez votre détermination. Sous quelle forme est-ce qu'elle va se concrétiser dans un futur proche?
Il y a deux niveaux, peut-être, de réponse à votre question sur la détermination, puisque d'abord, les maires vont continuer de se mobiliser. Il y en a 400 qui ont envoyé des mémoires au conseil constitutionnel pour demander que leur liberté de conscience soit validée. Et pour ce qui concerne le mouvement social en lui-même, vous savez qu'il est foisonnant, qu'il y a les veilleurs qui se sont développés. De même, Alliance Vita, nous continuons à être très mobilisés sur le sujet de la procréation médicalement assistée, pour laquelle il y a une très forte pression du lobby LGBT, qui considère que cette loi est une loi de demi-mesure. Ils commencent à dire leur mécontentement de voir que la procréation artificielle n'a pas été un droit accordé par la loi. Ensuite, il y a la gestation pour autrui, les mères porteuses. Et on voit, c'est tout un système de dominos qu'ils tentent de faire avancer pour casser finalement le mariage. Il y a même des penseurs éminents, promoteurs de ce mariage entre personnes de même sexe, qui ont demandé que l'obligation de fidélité soit supprimée. Et d'autres, que l'obligation d'être deux et non pas trois ou quatre soit également supprimée. On le voit, c'est une déconstruction très grave de la famille, de l'écosystème de base dans lequel l'enfant a besoin de se retrouver pour pouvoir s'épanouir avec des repères solides. C'est cette déconstruction qui est en marche. Et ça, c'est pas demain qu'on va baisser les bras pour essayer de promouvoir une société où le plus vulnérable, l'enfant, soit vraiment protégé et soutenu dans la mesure du possible par la loi et par aussi bien sûr ceux qui sont autour de lui.
C'était Tuc Duhal-Derville, délégué général de l'Alliance Vita, interrogé par Manuela Affigi. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.